Donc ce matin, pour la deuxième conférence de presse publique, nous allons parler de quatre spectacles, de la venue de Yann de Cort pour Dieu et les esprits vivants, la création de Hamlet par Hubert Collat, et ensuite des deux spectacles qui sont présentés en collaboration, en partenariat avec la Chartreuse des Avignons et présentés à la Chartreuse, en l'occurrence Federmans, et le cas de Sophika de Jean-François Perret. Voilà donc le programme de la matinée. J'ai l'impression que ça résonne et que c'est un peu fort, non? Ça vous va, le son? Nous allons commencer avec Yann de Cort, qui est à ma gauche, et Sigrid Winx, qui est à la fois interprète des spectacles de Yann de Cort, complice et conjointe. Dieu et les esprits vivants, c'est donc à la chapelle des pénitents blancs, du 9 au 13 juillet. On en parlait il y a deux secondes avant d'arriver sur la tribune. Ce n'est pas tout à fait la première fois que vous venez en France, mais c'est en tout cas la première fois que vous venez en Avignon. Est-ce que vous avez eu vous avez fait quelques festivals à Maubeuge, à Bordeaux, mais vous êtes quand même assez rare sur le territoire français alors que vous avez 30 ans de création derrière vous. Est-ce que vous avez la sensation, Yann de Cort, d'avoir été un petit peu ignoré du public et des institutions françaises jusqu'à ce jour, ou c'était une position de mise à distance, en retrait, qui vous satisfaisait?
Mais écoutez, c'est surtout une question de langage, hein. Donc, en principe, je travaille en flamand, donc en néerlandais, si on veut. Et je crois que c'est un malentendu ou quelque chose que je ne suis jamais venu en France. Que pour quelques festivals. Mais je me sens pas du tout ignoré ou non. C'est une coïncidence que je sois ici aussi, hein. C'est un choix de Diane Fabre, de Vincent, d'Hortense, pour présenter mon travail ici. Vincent ne connaissait pas mon travail. Donc il a eu une grande surprise hier en voyant ça.
Et vous avez compris sa surprise?
Oui. Moi, je suis habitué à ça.
À la surprise du spectateur?
Oui. Parce que je réussis à chaque fois de faire des spectacles qui sont à la fois très brutales, mais généreux aussi. Et c'est une espèce de schizophrénie qui... travaille très fort avec le spectateur. Donc il y a un grand travail à faire. Et oui, il y a un grand travail à faire. Et ça étonne. C'est le mot que Vincent a employé, étonnant.
Alors vous disiez, Yann de Cort, que vous avez été invité vraiment par Yann Fabre, et c'est vrai que vous êtes considéré, j'ai lu ça absolument partout, dans tous les articles qui vous sont consacrés, comme, alors les mots changent, mais c'est le père, c'est le héros, c'est le pape, c'est le premier de cette génération d'artistes flamands qui a émergé, et sur la scène flamande, mais aussi sur la scène internationale au début des années 80. Est-ce que vous acceptez cette position comme ça de figure, de proue? Comment vous la vivez et comment vous l'interprétez, enfin, comment vous la raconteriez?
Ben, c'est difficile pour moi de parler de ça parce que, bon, on raconte toutes sortes de choses sur moi qui sont sûrement vraies parce que je suis assez vieux et j'ai travaillé avant les autres, donc j'ai fait un travail avant les autres. Mais, oui, quelle était la question?
Comment vous vivez et comment vous analysez cette position majeure dans le peysage?
Oui, c'est flatteur, hein, quand même.
Oui, c'est flatteur. Ça peut être lourd aussi.
Oui, mais oui, c'est lourd. Mais, donc, j'avais une interview avec quelqu'un de Libération. Et elle commençait par demander d'où vient la vague flamande. La vague flamande. Mais ça me rappelait, il y a 20 ans, il y avait en Hollande aussi une vague flamande. Mais les gens se sont très vite lassés de ça, de cet effet. Donc il y a eu beaucoup d'engagement d'artistes en Hollande, mais à la longue, au bout de un ou deux ans, on a compris que ça ne représentait rien, cette vague.
C'est-à-dire, vous voulez dire par là qu'il n'y a pas un mouvement constitué, mais ce sont plutôt des individualités des rapports et qui sont en relation artistique ensemble.
Oui, exactement.
Mais quel est le lien, par exemple, que vous entretenez avec Yann Fabre, artiste associé cette année?
C'est un lien de respect mutuel, je crois. Donc, je respecte très fort son travail. J'ai joué pour lui aussi. Et il me rend ce respect. Donc, on peut dire même qu'on est des amis dans l'art. Et c'est pour ça que je suis ici.
Est-ce qu'il y a des échos entre vos créations, des effets de résonance? Parce que Vincent me racontait hier soir, avoir vu votre spectacle, en effet, et dire qu'il y avait des clins d'œil au travail de Yann Fabre. Enfin, lui le vivait comme ça, en tout cas.
Il y a dans mon travail des clins d'œil à tout. Donc, c'est vraiment très, très éclectique, ce que je fais. C'est très sévère, mais très éclectique. Donc, il y a en effet des clins d'œil pour Yann Fabre, mais on a aussi pour Wim van de Kerbu, c'est les gens qui sont ici.
Donc, il y a quand même la sensation, non pas d'un mouvement, mais d'une famille artistique entre vous tous.
Oui, on pourrait nommer ça comme ça, oui.
Sigrid Wings, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée comme ça d'appartenir à, non pas un mouvement, mais à une communauté artistique?
D'abord, je veux m'excuser pour mon français. Je ne parle pas très bien le français, mais je fais de mon mieux. Oui, c'est vrai ce que Yann dit. Je ne pense jamais à ces gens comme appartenant à un mouvement, mais à des artistes individuels, et je ne vois pas une grande différence entre les artistes flamands ou belges ou allemands ou français, donc...
Il y a peut-être quand même une notion de liberté et de prise de risque sur la scène qu'on ne retrouve pas dans d'autres cultures artistiques ou théâtrales.
Ça, c'est vrai. On a discuté hier soir, et je pense aussi que une raison de ça est parce qu'en Flandre et en Belgique, on n'a jamais eu tellement d'argent pour la culture et l'art qu'en France ou en Allemagne. Donc, tous les Belges qui sont maintenant dans le festival ont commencé dans le marge et encore maintenant travaillent avec peu d'argent. Et c'est ça, une grande liberté. Du moment qu'il y a beaucoup d'argent impliqué, il y a une censure et une liberté qui se perd.
Yann de Kort, vous avez la sensation que le peu de moyens donne plus de liberté?
Non. Non, je ne pense vraiment pas. Donc, ici, vous voyez le noyau artistique dans lequel je travaille. J'ai travaillé 5 ans dans un théâtre à Anvers. Et là, je pouvais faire des grandes productions avec chaque fois une dizaine d'acteurs. Et c'est aussi de la liberté. L'argent donne aussi de la liberté. Ce que Sigrid peut dire, c'est que, en effet... Toute cette famille artistique a commencé avec peu d'argent et a dû vraiment se battre pour pouvoir montrer ses spectacles. Et ça, c'est très important. C'est la persévérance qu'il y a dans la tête des gens.
Et c'est l'idée que les artistes se sont engagés vraiment jusqu'au bout, jusqu'à leur propre... et physiquement,
exactement,
et financièrement,
jusqu'à
leur limite extrême. Quoi.
Oui.
Alors, si vous voulez bien, cette conférence de presse publique se peut se faire en dialogue avec vous, public, donc n'hésitez pas à lever la main si vous voulez poser des questions, c'est quand même l'idée. Mais je souhaiterais qu'on parle un petit peu de votre spectacle, donc qui doit étonner le public, Dieu et les esprits vivants. Vous disiez n'être pas ou peu venu en France parce qu'il y avait un problème de langue. Pour la première fois, vous écrivez un texte en français. Pour quelle raison ?
Je ne sais pas. Comme tout ce que je fais, ça a été vite fait, bien fait. Et après, j'ai remarqué que c'était en français.
Seulement après ?
Oui. Je n'avais aucunement l'intention d'écrire en français, ni même d'écrire, et j'ai quand même écrit.
Et vite fait, ça veut dire quoi? D'un seul jet?
Non. J'ai travaillé quelques jours au texte.
Alors, comment nommer ce texte? J'ai lu dans le dossier de presse que vous vouliez absolument garder la surprise et que l'idée de surprise était importante pour vous. Mais on peut quand même dévoiler deux, trois choses. Est-ce qu'il s'agit d'abord d'un monologue ou d'un dialogue, sachant que vous êtes les deux sur scène, enfin il y a un troisième et quatrième compère, mais les deux sur scène et que vous partagez le texte?
Non, je veux pas dévoiler ça. C'est une partie de la surprise, en effet.
Mais on est trois sur scène.
Mais vous êtes trois sur scène avec Anna Teresa de Kersmaker. Ça, on peut le dire.
Ah bon? Oui, ça, on peut le dire. Ben, vous venez de le dire.
Donc. Oui, c'est trop tard. Et quand je disais quatrième compère, c'est un compère absent, mais présent, c'est Arnaud.
Arnaud a écrit la musique pour le spectacle et une chanson pour moi à la fin.
Que vous chantez?
Que je chante, mais qui est sa chanson.
Alors, comment s'est articulé le travail entre vous, le texte, la musique d'Arnaud et la participation d'Anna Teresa de Kersmaker? Tout s'est fait aussi vite fait, bien fait?
Oui, je pense bien, oui. Oui, on a lentement travaillé avec le texte, parce qu'il faut beaucoup de temps pour l'apprendre par cœur. Et puis, on a mis les choses un peu ensemble, et puis un peu plus ensemble, et puis un peu plus ensemble, et puis ça y était. Donc, alors, c'était fini.
Nous, c'est venu comme ça. Arnaud et Anne-Thérèse et nous, on est des amis depuis 25 ans, mais on n'a jamais eu l'occasion de travailler ensemble. Et Yann a écrit le texte, Arnaud l'a lu et il était très inspiré. Et Yann lui a demandé, tu peux faire la musique. Et il était directement d'accord et il a fait enfin un travail formidable. Et Anne-Thérèse avait entendu du projet, elle est venue chez nous et elle a demandé, est-ce que je peux danser dans le spectacle? Donc, on a dit, bien sûr que tu peux faire ça, et comme ça, c'est fait. Donc,
Alors, si vous ne voulez pas parler de la nature du texte, monologue ou dialogue...
C'est un polar métaphysique qu'il y a dans les Inoccupables. Mm-hmm. Je trouve ça bien trouvé, un polar métaphysique.
Avec un meurtre, donc?
Ben, il y a du meurtre dans la pièce, oui. Mais il y a aussi beaucoup d'amour et beaucoup de gaieté, au fond.
Et il y a des personnages?
Oui. Il y a Sigrid qui est souffleur. Il y a moi qui suis sans loup diable. Et puis il y a la perle fine, c'est Anne-Thérèse Kersmaeker. Excusez-moi.
Sans loup diable, c'est un nom de personnage que vous avez déjà utilisé pour une de vos pièces précédentes. Est-ce que ça veut dire que c'est un personnage qui serait autobiographique ou qui serait en tout cas assez proche de vous?
Je crois bien. Le premier texte du spectacle est vraiment un portrait de moi-même à travers une espèce de chevalier qui s'appelle Sans loup diable et qui a un grand appétit de sang. Mais j'ai fait une pièce qui s'appelle « Sans loup diable ». Dans une période de ma vie que j'étais vraiment très pressé parce que j'étais déprimé. Alors j'ai encore vite fait cette pièce et puis je me suis trouvé dans un abîme fabuleux. La déprime totale, quoi. Mais c'est une pièce qui a toujours marché spécialement pour moi et que j'ai toujours senti comme très proche de moi. Donc, il n'était pas difficile de ressortir Sans le diable, encore une fois, pour ce spectacle-ci.
Mais en même temps, ça n'est pas un personnage psychologiquement défini. C'est une figure.
Ben, c'est une figure, on peut choisir, c'est un ange ou un diable. Donc, on peut vraiment choisir. Il n'y a pas grande différence entre un ange et un diable.
C'est là où vous rejoignez en partie le travail de Yann Fabre qui s'interroge sur ses passages, sur ses métamorphoses et sur ses limites.
Oui. Mais d'une toute autre façon que Yann.
En choisissant davantage les purs? Les purs, le moins de moyens possible, enfin la simplification absolue du travail.
Ben oui, mais ça c'est toujours le cas. Donc je suis quelqu'un qui est pur très fort jusqu'à trouver l'essence absolue dans le texte et dans la représentation. Donc c'est toujours très pur. Tandis que Pablo, ils n'ont pas les grands moyens. Moi, j'ai pur.
Yann de Cort, j'ai cru comprendre que, à l'origine, la pièce s'appelait Dieu et les esprits, et que tout d'un coup, le titre s'est transformé pour s'appeler Dieu et les esprits vivants. Pourquoi cette transformation? Pourquoi ce rajout de vivant?
Eh bien, j'ai commencé à écrire la pièce pendant la pause d'une autre représentation, qui était Le deuil sied électre de Eugene O'Neill. Une pièce très forte sur la mort. Et je trouvais cette représentation très bonne. Mais dans l'entracte où j'ai commencé à écrire Dieu, j'ai demandé aux gens ce qu'ils en pensaient. Et ils disaient, oui, mais c'est bien, mais c'est triste. Je dis, oui, mais c'est sur la mort, donc ça doit être triste. Mais puis j'ai écrit le titre Dieu et les esprits, ça j'avais déjà. Mais par la tristesse de ces gens, j'ai changé le titre en Dieu et les esprits vivants. Parce que les gens n'aiment pas qu'on parle de la mort. La mort, c'est encore un grand tabou, hein. C'est comme les maladies.
Mais pour autant, c'est un texte qui parle de la mort.
Entre autres, oui. Il parle un peu de tout. Tous mes textes parlent un peu de tout. Donc c'est comme dans King Lear de Shakespeare. Cette pièce, elle couvre tout. Donc tous les sujets possibles sont là-dedans. Et ça, j'essaie de faire aussi quand j'écris quelque chose. Il y a le plus d'angles possibles, le plus de densité, de couches possibles. Ça m'intéresse.
Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais une dernière question concernant cette proposition à Avignon. Vous jouez Dieu et les esprits vivants à la chapelle des pénitents blancs. Ça fait beaucoup dans l'idée d'une sacralisation comme ça, de quelque chose comme une messe. Est-ce que vous le vivez de cette manière-là? Est-ce que vous vivez votre acte théâtral de cette manière-là?
Oui, écoutez, chaque fois qu'on fait une entreprise théâtrale, il y a du rite dedans, du rite. Il y a ça dans tout. Évidemment, quand on vient avec une pièce comme Dieu, dans la chapelle de pénitents blancs, le sentiment de rite est plus fort. Donc il est plus, comment dire, on est plus avec son nez dessus. Aussi pour les spectateurs, ce sera très rituel ce qu'on fait. Mais ça me plaît, ça me plaît énormément. Je trouve que c'est vraiment le lieu pour faire ce travail.
Y a-t-il des questions dans la salle à propos de Dieu et les esprits vivants? Le spectacle que Yann de Cort dit lui-même étonnant.
Très étonnant.
Très étonnant même, pour ajouter le trait. Pas de questions? Merci beaucoup. Et donc, Dieu et les esprits vivants à la chapelle des pénitents blancs du 9 au 13, et c'est à 15h.
C'est bien ça.
Merci beaucoup. Merci. Je vais demander à Hubert Colla et aux comédiens d'Hamlet de venir sur scène. Donc, deuxième spectacle, Ce matin, Hamlet, Shakespeare, Hubert Collat à ma gauche, entouré de Thierry Reynaud, Hamlet, Mireille Epstmeyer, Gertrude, la reine, et Geoffroy Carré, Polonius, en bout de table. Donc les représentations commencent le 9 au gymnase Aubanel. Hubert Collat, vous êtes auteur, vous êtes metteur en scène essentiellement de textes contemporains, vous avez monté Sarah Kane, vous avez monté Christine Angot, un peu plus loin dans le temps Gombrowicz ou Brecht, mais jamais des textes comme ça du répertoire Shakespeare, tout d'un coup Shakespeare. Quelle urgence avez-vous ressenti à vous jeter dans les bras d'Hamlet ?
En fait, l'histoire que la compagnie a avec Hamlet, en fait, est pas une histoire qui est liée à cette pièce-là particulièrement ou à Shakespeare, puisque en fait, nous avons fait un travail, juste comme vous le disiez, sur l'écriture de Witold Gombrowicz en 1998 sur Mariage. Et c'est en créant Mariage de Witold Gombrowicz, en fait, que l'idée de monter à un moment ou à un autre Hamlet est advenue, tout simplement parce que Mariage est une pièce fortement inspirée d'Hamlet. Et du coup, toutes les figures que nous pouvions rencontrer dans Mariage de Gombrowicz étaient déjà hantées par toutes ces figures shakespeariennes. Et du coup, au moment du montage de Mariage, j'ai relu Hamlet, j'ai parcouru en même temps que les répétitions, et puis c'est cette espèce de fantôme de l'écriture qui nous suivait a suivi son chemin dans la vie. Et puis il y a 2-3 ans, d'un seul coup, il y a eu ce désir de préparer, de penser ce projet.
Mais en même temps, vous n'avez pas mis en scène Hamlet avec le Gombrowicz sous le bras tout le temps. À un moment, tout d'un coup, les personnages ont vécu par eux-mêmes, non ?
Oui. Mais n'a pas empêché que malgré tout, la première peut-être lecture qu'on pouvait faire d'Hamlet était celle qui passait par le filtre de Gombrowicz. On pourrait dire qu'on aurait pu passer par Shakespeare en lisant Hamlet et aller sur Mariage. Et en réalité, c'est bien le rapport inscrit par Witold Gombrowicz qui d'un seul coup me permettait de faire une certaine lecture de cette pièce. Après, je m'en suis forcément écarté. Après, c'est donc sur les actes peut-être de la représentation, on peut dire, de l'humanité, de l'homme par l'homme, que d'un seul coup j'ai eu le désir de voir et de lire à l'intérieur de Shakespeare.
Mais est-ce que ça n'est pas impressionnant de monter Hamlet? Sachant que tout metteur en scène ou presque s'y est confronté, sachant que tout spectateur a déjà vu plusieurs versions.
J'ai jamais abordé ça ni avec les comédiens ni avec ce travail-là ou cette pensée-là. Donc en fait, pour moi, il n'y a pas de monstre sacré à travers Hamlet ni à travers Shakespeare. Bien évidemment, quand vous commencez à rentrer dans l'écriture, quand vous commencez à écouter, vous vous rendez bien compte que vous avez affaire à une œuvre magistrale extrêmement importante, mais comme il en existe quand même pas mal dans les dramaturgies. Mais il n'y a pas eu d'impression forte par rapport à ça.
D'autant que vous voulez jouer absolument la version intégrale. Vous avez tenu à cette version. Pour quelle raison ? 4h30 de spectacle.
C'est pas qu'on ait tenu particulièrement à faire absolument la version intégrale. Il semblait que ne partons pas effectivement peut-être d'une histoire personnelle ou d'une histoire du théâtre vis-à-vis d'Hamlet, c'est-à-dire de se raconter une énième lecture possible à travers l'œuvre, en prenant un filtre bien précis, comme souvent il a été puisé par un certain nombre de metteurs en scène, qui était de raconter de façon liée à l'analyse, le rapport incestueux, etc., enfin le rapport au père, toutes ces choses-là qu'on peut lire sur les analyses de cette pièce. Il nous semblait important, en fait, de la saisir dans sa totalité et de comprendre les ramifications qui entouraient la pièce. C'est-à-dire qu'au lieu d'essayer de faire un tracé dedans en se disant elle est soi-disant obscure, soi-disant complexe, abordons-la dans sa totalité, écoutons bien tous les méandres des figures humaines, de façon à ce que Hamlet ne soit pas simplement un personnage ou une soi-disant personne qui serait en liaison avec son père présent ou son nouveau père ou sa mère, mais bien évidemment une histoire de l'humanité qui se dresse à travers ce corps-là. Donc, à partir de là, il était fondamental d'écouter toute la texture de la pièce et que nous ne coupions pas de scène. Par contre, nous avons élagué. On n'a pas l'intégrale. La pièce est élaguée, sans doute parce qu'on a bien senti qu'à un moment donné, un certain nombre de mouvements répétitifs dans la pièce étaient peut-être, nous semblaient peut-être superflus à l'époque actuelle. À l'époque de Shakespeare, il y avait ce besoin à un moment donné de réitérer dans l'écoute du spectateur certains moments, parce qu'effectivement ça rentrait, ça sortait, ça parlait, et qu'aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce cadre-là.
Si vous aviez à raconter Hamlet, comment vous le raconteriez, puisque vous voulez sortir de cette logique psychanalytique, rapport incestueux, absence du père, etc.
Je crois que je ne... Alors c'est une réponse boiteuse, mais je crois que je ne le raconterai pas. Je laisserai bien évidemment, et je crois que c'est lié au travail, à la sensation de l'ouverture de l'écriture et à l'acteur, le soin... et au public le soin de se raconter cet univers-là. La pièce est trop riche en soi de tout ce que nous vivons et de tout ce qui est notre rapport à la conscience du monde pour un moment appliquer une règle majeure sur l'œuvre. Cependant, à l'inverse, bien évidemment, de ce que je viens de dire, j'ai forcément eu des sensations et qu'il m'a semblé que la pièce ne racontait pas simplement ce que beaucoup de théoriciens, des fois, essayent de décrypter dans la petite histoire pour essayer de voir si la logique de Shakespeare correspond réellement, dramaturgiquement, avec des questionnements de ce que signifie le spectre, de ce qui signifie le théâtre dans le théâtre, etc., etc. À un moment donné, qu'est-ce que, peut-être, à l'époque où il était, à l'époque où ça peut résonner aujourd'hui, il tentait de nous raconter par l'empoisonnement du roi. Et qu'est-ce que c'est que cet empoisonnement? Qu'est-ce que c'est qu'à travers la langue, on finit par écouter et par voir? À un moment donné, il fallait se poser. Moi, je suis très attaché, comme vous le disiez tout à l'heure, à l'écriture contemporaine. Donc, forcément, à un moment donné, à une certaine, peut-être, prise de conscience de ce que des auteurs contemporains nous racontent du monde d'aujourd'hui, ou en tous les cas, des sensations d'aujourd'hui. Là, j'avais affaire à un classique qui, au bout du compte, était tout aussi contemporain que nous, dans la nécessité que les acteurs avaient à prononcer ces mots-là. Alors, l'empoisonnement du roi n'était pas simplement une histoire d'anecdote de rapport au pouvoir. Il était bien évidemment ce que pouvait raconter l'empoisonnement, peut-être, de la parole du pouvoir dans le monde. Donc, à un moment donné, qu'est-ce que nous empoisonnons les êtres et les gens qui nous entourent, tant au niveau donc politique qu'au niveau humain, par les paroles que nous employons? À un moment donné, cette pièce, peut-être, raconte la puissance de l'empoisonnement par la parole qui nous gouverne, qui nous gouverne donc tant au niveau politique qu'au niveau humain. Alors, à un moment donné, dans ça s'inscrit effectivement la figure d'Hamlet qui, non seulement par la parole, mais aussi par le regard, tente d'élaguer et de convaincre petit à petit, par le langage, les êtres de se mettre en conscience avec eux-mêmes et avec le monde. S'il y a une lecture, si on peut le dire ainsi, c'est vrai que c'est un chemin de traverse dans l'écoute des textes et en mesurant ce que peut-être Shakespeare s'est employé par la parole à faire de la transformation des corps et du rapport au monde.
Donc ce serait un homme, une figure qui chercherait la vérité.
Elle ne cherche pas la vérité en tant qu'objet de départ. Elle est confrontée à quelque chose qu'elle voit, qu'il voit dans les figures des autres, qui serait une puissance du mensonge. On ne va pas dire à l'opposition du mensonge, on ne va pas parler forcément de vérité. On va parler de quelque chose qui a une nécessité d'employer un état de conscience au présent. C'est-à-dire, au lieu d'aller dans des directions qui semblent être des directions troublantes, des choses qui nous entraînent dans des chemins de vie vers des zones obscures de nous-mêmes, il a une nécessité de rétablir, on va dire, une puissance de présence, d'être là, on va dire, au même titre que cette parole qui existe, que tout le monde connaît, qui est l'être ou ne pas être, dans la pièce.
Thierry Reynaud, est-ce que vous raconteriez votre personnage d'Hamlet de cette façon-là aussi?
Pardon?
Est-ce que vous raconteriez
pardon.
Votre personnage d'Hamlet de la même manière que Bercola?
Oui, en tout cas, comment on a travaillé, c'est-à-dire que j'ai pas été du tout confronté à le mythe d'Hamlet, mais vraiment beaucoup plus comme un accompagnement presque logique du travail que je fais avec Hubert Collat depuis maintenant 10 ans. Ensuite, comment nous avons abordé Hamlet, on l'a pas du tout pris comme un mythe. Donc à partir de là, on a vraiment fait un travail de compagnie. Voilà.
Mais comment vous l'avez construit, ce personnage?
C'est difficile, je crois, de répondre, parce qu'en fait, justement, on ne construit pas en partant de l'idée d'un personnage. Le personnage, c'est l'œuvre. À partir de là, c'est la totalité de l'écriture de Shakespeare qui crée œuvre. Donc, c'est des confrontations d'émotions et de sensations entre des acteurs qui sont présents et qui révèlent dans la texture de la parole ce que sont ces émotions que le texte provoque. À partir de là, on est totalement dégagé de la notion du personnage. Et ce sont bien, c'est bien une pièce écrite par Shakespeare pour une troupe d'acteurs, et c'est bien justement parce qu'il y a une problématique de la notion du théâtre et de la puissance du théâtre au monde qui est exposée dans la pièce. Donc on éclate, on se pose, ou je demande peut-être aux acteurs de se poser avant toute chose en tant que personne.
Mireille, je vais écorcher votre nom, Herbstmeier,
oui.
Pardon. Et Geoffroy Carré, vous êtes moins familier du théâtre du Bercola, puisque contrairement à Thierry Reynaud, vous n'êtes pas des comédiens fidèles oui. À Hubert Cola depuis une dizaine d'années. Est-ce que vous avez eu la sensation comme ça de jouer la totalité de la pièce de Shakespeare, d'être des personnes et non pas des personnages, comme le dit Hubert Cola?
Oui, ça absolument. D'ailleurs, dès le début du travail, ça a été très évident. Il n'était pas question de reproduire le mythe, effectivement, dont on vient de parler, mais au contraire, de chercher en soi comment est-ce que la parole peut traverser et qu'est-ce qu'elle change dans le rapport au monde. Donc, c'est-à-dire d'élargir la chose. On parlait tout à l'heure de la petite histoire personnelle, incestueuse ou non, etc. Je crois qu'on est bien au-delà de tout ça. La parole qui me semble importante, moi, enfin, c'est là-dessus que j'ai essayé de vraiment réfléchir, c'est être ou ne pas être, effectivement, qui serait pour moi un fil directeur de ce travail. Et à partir de là, qu'est-ce qui fait que la confrontation avec, effectivement, ce personnage d'Hamlet amène à une révélation du mensonge, ou en tout cas est une plaque sensible sur laquelle peut s'inscrire la conscience de chaque figure, en fait.
Geoffroy Carré.
Tout ce que je peux dire, c'est que c'est extrêmement rare et formidable de travailler avec un poète qui fait les mises en scène, parce que c'est les mots, la parole est très charnelle. C'est vraiment dedans nous, et le mythe que vous parlez, ça devient très familier. Cet Hamlet, c'est notre famille, après tous ces mois de travail, donc voilà, tout ce que je voulais dire.
À propos du texte et cette manière de le rendre familier, j'ai pas exactement compris si vous aviez commandé une nouvelle traduction d'Hamlet, ou si, au fur et à mesure du travail et des répétitions, finalement, vos mots ont pris la place de temps en temps des mots de Shakespeare pour en faire votre propre traduction à tous et à chacun. Je ne sais pas qui répond à cette question.
C'est le chef qui répond.
Vous posez la question et vous y répondez, donc c'est très bien.
C'est une mauvaise question, alors.
Parce non, que non, non, peut-être
vous sortez de... Il ne fallait pas donner la réponse à la question.
Mais effectivement, enfin, c'est poser la question de l'écriture, donc de la traduction. On n'y a pas été seulement confronté sur la problématique du texte de Shakespeare. C'est que je crois que c'est la façon dont je travaille en abordant une écriture. Ça a été finalement avec Sarah Ken, ou en ce moment un peu aussi avec Martin Krimp et Shakespeare. Il était de comment, à un moment donné, on peut saisir l'écriture en tant que corps. C'est-à-dire comment elle devient véritablement une matière, et comment finalement, alors c'est Je ne sais pas quelle part de réalité il y a avec ça, mais comment à un moment donné j'ai besoin de sentir le corps de l'auteur pour naviguer avec et pour saisir comment avec l'acteur il se l'approprie et qu'il devienne son propre corps. À partir de là, on a lu un certain nombre de traductions de Shakespeare et il était évident que au fur et à mesure que je pouvais les lire et que je regardais le texte d'origine, enfin les différents textes d'origine, il y avait une matière textuelle que je ne retrouvais pas totalement, notamment en ce qui concerne toute une problématique de répétitif de l'écriture. Il y avait bien évidemment, et ça rejoint ce que je disais par rapport à la notion d'empoisonnement, il y avait tout un langage qui circulait dans la pièce et qui n'appartenait pas à justement la notion de personnage, mais à la notion de l'œuvre. Et donc il fallait absolument essayer de retrouver ces traces-là dans l'écoute de l'écriture, de façon à ce que les acteurs, à un moment donné, aient ce fil différent de celui d'une dramaturgie classique de personnage, de façon à ce qu'il voit comme une espèce de passage en chaîne des mots. C'est-à-dire qu'on a, sur le coup, il y a un mot qui part de moi, qui circule ici, qui circule là-bas, qui circule jusqu'à Polonius, et ce va-et-vient là, c'est, on va dire, contamination du langage était fondamentale, semble être écrite dans Shakespeare, et que nous avons eu besoin de retraduire l'œuvre pour réentendre ça. Et c'était aussi, bien évidemment, un travail de fouille à un moment donné. J'ai eu besoin de ça aussi à travers l'écriture de Sarah Ken. J'ai besoin de ça aussi d'une certaine façon, même avec une écriture de langue française. À un moment donné, c'est aussi à l'intérieur de l'écriture que j'ai besoin de mettre mes mains. Alors c'est sans doute parce que je suis moi-même écrivain et que j'en ai besoin et que c'est une façon, pas de se l'approprier, mais de sentir que cela coule dans le corps.
Je vais me tourner vers la salle pour voir s'il y a des questions. Mais auparavant, je suis venu, je ne vois pas de doigt se lever, je suis rapidement passé voir une répétition hier, enfin c'était plutôt un calage technique, et j'ai juste entendu la reine dire « rejette cette couleur nocturne ». C'est le tout début, d'Hamlet. De quelle couleur est Hamlet ?
C'est une question à la reine.
Ça peut être une question à la reine, mais c'est une question à Hubert Collat aussi.
Oui.
Mais à la reine, que dirait la reine ?
Ben, je dirais qu'il est peut-être couleur de ce qu'elle ne veut pas voir. Voilà.
Hubert Collat.
En entendant, j'avais simplement la couleur de bonne nuit.
Le petit ?
Non, ça c'est votre histoire, c'est pas la mienne. Non, c'est vraiment dans la terminologie d'une histoire qui parle de vie, mais qui parle bien évidemment, comme vous le savez tous, du passage à la mort. C'est vrai que il y a cette petite phrase qui paraît totalement anecdotique dans la pièce et qui n'arrête pas de circuler. C'est ce bonne nuit. Et quelle est la couleur d'une bonne nuit ?
J'ai souvenir de la mise en scène de Vitesse qui avait fait une version intégrale aussi. Le décor était manière d'un blanc éclatant. Vous vous en souvenez ?
Oui.
Et alors ?
Je me suis rendu compte que Yanis Kokos était allé voir le palais d'Elsenor et qu'il avait stylisé complètement dans sa scénographie en fait l'espace, respecté complètement ce qu'était ce palais avec la sensation du beige et donc effectivement cette puissance, du coup il l'a totalement tapissé dans tout l'espace et il y a quelque chose d'immaculé comme ça qui apparaît. Nous sommes totalement à l'inverse de ça. C'est vrai que d'un seul coup il m'a semblé que ce fameux bonne nuit dont on parlait il y a cinq minutes était aussi quelque chose qui était dans l'écriture. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné on arrive à ressaisir en nous-mêmes des particules, par exemple d'une pièce, quand vous rentrez dans une pièce que vous connaissez parfaitement et qu'elle est totalement noire, et pourtant vous savez exactement où sont les objets, vous savez exactement là où vous pouvez éclairer, pas éclairer, et comment le corps se ressaisit de cet espace-là. Est-ce que finalement il ressaisit exactement ce qu'il peut faire en pleine lumière, ou est-ce que d'un seul coup le parcours devient totalement différent ? Il n'y a pas de réponse exacte par rapport à ça, mais d'un seul coup la nécessité effectivement de l'apparition, donc du noir absolu était nécessaire, tant dans le chemin de l'acteur, mais aussi dans le chemin de l'œuvre. Il y a un certain nombre de réponses que nous n'avons pu trouver dans l'écoute de cette écriture, qui parle donc de l'écoute et du regard, de ce que l'on voit ou de ce que l'on ne voit pas, par le noir total.
Y a-t-il des questions à propos de cette mise en scène d'Hamlet, madame? Attendez, il y a un micro arrive.
Combien de temps est-ce que vous avez eu pour la production?
Pour la
production. Production, le travail.
Vous voulez dire pour la répétition? On a répété trois mois à peu près, mais trois mois avec des particularités, bien évidemment. C'est-à-dire que le fait de retraduire finalement l'œuvre au cours des répétitions et d'en créer une alchimie de création avec les acteurs prend du temps. Donc il y a eu ça qui s'est inscrit aussi dans le cours de répétition. Et il y a eu une nécessité aussi de faire un chemin parallèle à l'écriture, c'est-à-dire la puissance clownesque, macabre dans l'œuvre de Shakespeare est très présente. Donc on a invité quelqu'un qui s'appelle Alain Gautré à faire un atelier clown autour de l'œuvre d'Hamlet, de façon à voir ce que représentent ces masques humains. Alors au total, ça a été trois mois. Après, la macération de ça, elle est particulière. En 98, on a monté Mariage de Gombrowicz, qui nous a suivis. Maintenant, ce sont les figures de mariage qui, pour moi et pour ceux qui étaient les acteurs qui étaient déjà dans Mariage, qui ont continué de hanter ce travail-là. Mariage nous a permis une inspiration aussi sur l'espace. Donc ça, il y a eu tout un cheminement avec des acteurs qui vient de bien avant. Et puis pour les nouveaux acteurs, ça a été effectivement seulement ces trois mois-là. Et en même temps, je pense que un certain nombre d'acteurs qui étaient là, comme Mireille ou comme Geoffrey, dans le travail que nous avons fait, on ne peut pas s'arrêter aux trois mois. La rencontre que je fais avec eux est une rencontre qui met en mémoire finalement tout un autre travail d'accompagnement qu'ils ont pu avoir avec d'autres metteurs en scène, d'autres auteurs ou des rencontres pour Geoffrey comme avec Antoine Vitez ou Jean-Luc pour Mireille. D'un seul coup, il y a une aspiration totale de ce que représente le champ théâtral qui, je crois, nous avons tenté de réunir autour de ces mois de répétition.
Une autre question? Non, je ne vois personne. Donc, merci beaucoup et rendez-vous le 9 au gymnase au Banel pour Hamlet. Avec une petite précision, vous présentez aussi d'une 19 au 22 une première étape de travail de votre prochaine création sur des textes de Martin Kripke. Voilà. Et ça sera où? Ça sera au
Jardin de Mons.
Au Jardin de Mons. Et puis, vous lisez votre texte M au Musée Calvé le 21.
Oui.
Voilà l'agenda du Bercola pour ce mois de juillet. Merci beaucoup.
Merci.
Nous allons passer maintenant aux propositions théâtrales que l'on pourra avoir à la Chartreuse. Donc je vais demander à la fois au nouveau directeur de la Chartreuse, François de Bangarden, de venir, ainsi que Raymond Federman et Louis Castel. Donc, nous allons parler très rapidement avec François de Bangarden de sa conception des rencontres d'été, puisqu'il est un tout nouveau à la Chartreuse. Louis Castel, donc ici François de Bangarden, Louis Castel, Françoise Villaume, qui est co-directrice donc de la Chartreuse, et Raymond Federman pour le premier spectacle qui va être présenté donc à la Chartreuse. Donc, en un mot, François de Bangarden, vous êtes le nouveau directeur, vous avez été nommé il y a un an pile, je crois, vous avez pris vos fonctions le 1er janvier, et visiblement vous restez dans la tradition des rencontres d'été, il n'y a pas de révolution avec votre arrivée, vous restez fidèle à ce qu'a mis en place Daniel Girard, les rencontres d'été et une collaboration assez forte et assez proche avec le Festival d'Avignon.
Oui, alors, pour parler de la Chartreuse, il faut commencer par parler d'un lieu. C'est un lieu du festival, mais c'est aussi un lieu qui vit par lui-même, enfin, sans remonter au milieu du XIVe siècle. C'est un lieu qui a une vraie présence, qui se trouve hors Avignon, donc ça fait partie des lieux utilisés pendant la période du festival en dehors de la ville même d'Avignon, c'est juste en face. C'est lié à Avignon par une histoire religieuse qui est importante et qui finalement rejoint par beaucoup d'aspects le théâtre, puisque quand on égrène la liste des lieux de spectacle d'Avignon, entre le Palais des Papes, les pénitents, les carmes, on a sans arrêt des références. Alors la Chartreuse, c'est, comme son nom l'indique, un monastère qui a une histoire avec le Festival d'Avignon depuis 1973, qui est plus jeune que le Festival d'Avignon au sens du théâtre, et qui, depuis cette époque, s'est donné une spécialité d'être un lieu de rencontre de différentes formes d'art, qui s'est spécialisé depuis les années 1990, en gros, le milieu des années 90, dans les écritures du spectacle. Donc c'est un lieu qui vit à l'année, 365 jours sur 365, qui est devenu, en quelque sorte, on le revendique de cette manière, un laboratoire des écritures du spectacle, très tourné vers le théâtre, ouvert à d'autres formes textuelles et non textuelles, mais aussi, pourquoi pas, d'autres formes de présentation à la scène, et qui a une histoire avec le Festival d'Avignon, qui est, pendant cette période d'été, de présenter un certain nombre de projets communs. Alors avec l'équipe, on est arrivé presque en même temps, ils avaient, par rapport à moi, une année d'avance, mais l'équipe de la Chartreuse est une équipe de 30 personnes, qui elle a une durée de vie plus longue que moi dans cette maison. Et au fond, c'est vrai que c'est dans une continuité que je me suis inscrit, un changement dans la continuité. Ce sont des thèmes des années 70 qu'on peut retrouver de cette manière. Nous avons, à l'occasion de ces rencontres d'été, la possibilité de montrer, d'une part, en collaboration avec le Festival d'Avignon, des spectacles. On va avoir, on va entendre tout à l'heure Louis Castel, Raymond Federman parler de leur travail. On va entendre Jean-François Perret et Luc Steele parler de leur travail à eux sur le cas de Sophika. Dans les deux cas, d'ailleurs, on voit bien que il s'agit de textes qui ne sont pas écrits pour le théâtre, mais dont le théâtre s'est emparé d'une certaine manière, à partir de différents matériaux, ce qui rejoint l'une des préoccupations que nous avons, du fait de notre expérience et de tout ce que nous avons fait depuis une vingtaine d'années autour des écritures du spectacle. On voit bien que une partie des questions qui se posent identifie cette problématique de l'auteur, du matériau texte, etc.
Donc nous allons en parler. Et tout d'abord, donc, de Federmans, avec un S à l'anglaise, Raymond Federman et Louis Castel. Raymond Federman, auteur, une trentaine de livres écrits, et j'ai la sensation que vous êtes presque inconnu, ou en tout cas très très confidentiel en France. Et Louis Castel, fondateur du Théatrographe, est-ce que vous avez eu la sensation, Louis Castel, en vous emparant des textes de Raymond Federman, de participer à la découverte d'un auteur?
Ça se passe jamais comme ça. Ça se passe, je crois que le mot parole est extrêmement important. Un soir d'été, il y a quelques années, j'ai eu la chance d'entendre Raymond Federman parler dans un poste de radio et de l'entendre également lire ses textes. Et là, il y a quelque chose qui se met en marche. On est, en tout cas en ce qui me concerne, impacté par cette parole, cette écriture, et à ce moment-là, Raymond Federman n'était pas publié en France. On ne trouvait pas le livre qu'il lisait, qui s'appelait Amer Eldorado. Il a fallu le faire venir d'Allemagne. Il était écrit, enfin, il était publié en français. Et ça se met en branle de cette manière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Il faut préciser qu'aujourd'hui les textes sont publiés, bien notamment sûr. Grâce à une petite maison d'édition qui s'appelle Aldante.
C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'on n'est jamais seul à entendre un message qui est envoyé comme ça sur les ondes, qu'elles soient maritimes, comme jadis la bouteille à la mer, ou aujourd'hui par la radio. Et effectivement, parallèlement, il y a des gens qui se disent, au même moment que moi, ou avant, ou après, peu importe, il est impensable que cette écriture ne soit pas diffusée, connue et, en ce qui me concerne, jouée pour le théâtre.
Je vois que Raymond Federman veut parler.
Il faudrait préciser que le livre que Louis Castel a adapté à la scène avait paru en France en 1974. Avec un certain succès, il avait même été nommé pour le prix Médicis, qu'il n'a pas gagné, et puis il a disparu. Il a disparu parce que l'éditeur a été racheté par une autre maison. Et pendant une trentaine d'années, j'ai essayé de le faire ressortir, impossible. Alors c'est un de mes éditeurs en Allemagne qui dit, moi je vais le faire en allemand. Il est sorti en allemand en 2001, et c'est ce livre que Louis Castel a découvert.
Mais il était édité en français.
En français.
Je l'ai reçu, voilà, c'est... Hein.
Alors, je voulais savoir ce qui vous avait impacté, pour reprendre votre mot, dans l'écriture, quand vous entendez lire Federman.
Le rythme, le fait que ça... ait l'air d'être parlé et qu'en même temps c'est très très écrit. Le sous-titre d'Amer Eldorado, c'est trop beau pour être vrai, c'est récit exagéré à lire à haute voix, assis, debout ou couché. Rien que cela, on se dit que ça a un rapport avec le théâtre. Il y a de l'espace, il y a de la voix, il y a du rapport à l'autre.
Et il y a de l'humour.
Il y a de l'humour. Et surtout, ce que je voudrais dire, c'est que quand j'ai reçu le livre, c'était encore mieux, parce que Raymond Federman, pendant des années, a travaillé à l'éclatement du mot, de la phrase dans l'espace. Il a mis en scène ses phrases et ses mots. Moi, je poursuis depuis longtemps un travail là-dessus. Ma compagnie s'appelle le théâtrographe. On entend bien que comment le graphe se met dans l'espace. Le travail que j'ai fait est sur Novarina. Et je dois dire que Raymond Federman, c'est une étape importante pour moi parce qu'il me permet aussi, en m'obligeant à réfléchir, à me positionner sur comment va-t-on faire se rencontrer le corps des lettres qui vont être dans l'espace. Il y a un important dispositif technique, technologique dans le spectacle. Il y a beaucoup d'écriture et d'images projetées, plus d'écriture que d'images. Comment va-t-on se faire rencontrer le corps des acteurs, le corps des lettres dans l'espace du théâtre?
Est-ce que ça vous semble naturel, Raymond Federman, ce passage de vos textes?
Quand quelqu'un vient, et je ne connaissais pas Louis Castel, quand il s'est mis en contact avec moi, et me dit, je voudrais adapter votre roman sur la scène. Oui, c'est bien, mais comment? J'étais à Heidelberg, et Louis est venu, on a passé 2 jours ensemble à discuter, il m'a parlé de son travail, et puis bon, j'étais un peu convaincu, mais pas tout à fait. Et puis, il m'a invité à venir voir ce qu'il avait monté devant la parole de Novarina à Grenoble. Alors là, j'étais tout à fait ébloui, oui. Je me suis dit, il a non seulement compris Novarina, mais il va comprendre mon travail qui se situe toujours sur plusieurs niveaux de narration et plusieurs niveaux de voix. Et justement, c'est ça, devant la parole, il y a un acteur, il y a le texte, il y a le public, et c'est comme ça que je travaille. On s'est compris tout de suite, et alors on a discuté ce projet pendant plus d'un an. J'étais à Avignon au mois de novembre, pendant une semaine, on a travaillé ensemble, je suis revenu au mois de mars, j'ai passé 2 semaines ici, et le projet petit à petit, et j'ai bien compris que Louis Castel avait compris ce que je faisais.
Parce que j'ai l'impression que dans vos textes, dans vos livres, il y a déjà de la mise en scène. Alors ça s'appelle de la typographie en imprimerie, mais est-ce que ce n'est pas déjà de la mise en scène avec des mots partout, on va dire, enfin, pour faire vite.
Il y a eu un livre de publié par un critique, en fait, un critique polonais qui dit, je le dis en anglais, the novelist performance, c'est-à-dire que mes romans sont une sorte de performance, et c'est vrai, non seulement du point de vue de la typographie, mais du point de vue de la narration, et puis, surtout, il y a des voix, une multiplicité de voix dans mes textes.
Pourtant, j'ai la sensation que tous vos textes sont à l'origine autobiographiques.
Ah! Voilà la grande question. Un des romans avait
été... J'ai attendu 5 minutes, vous voyez, pour la poser.
Un des romans avait été refusé par un éditeur français. me disant, oui monsieur, c'est bien sous-tête, mais c'est trop autobiographique. Cet éditeur s'appelait Gaston. Alors je me suis penché vers monsieur Gaston, je dis, qu'est-ce que vous savez de ma vie, monsieur Gaston, pour dire que c'est trop autobiographique? Je ne fais aucune distinction, ce qui m'est arrivé et ce que je m'imagine m'être arrivé. Aucune distinction entre la mémoire et l'imagination.
J'ai lu à votre propos que c'était pas forcément autobiographique, mais que c'était automobilographique.
Oui, j'appelle ça autographiti. Voilà, c'est une sorte de graffiti.
Mais si vous ne faites pas la distinction...
Mais non, mais c'est vrai que oui, c'est basé sur certaines expériences. Si vous ne faites pas la distinction,
il y a quand même quelques événements décisifs dans votre vie. Un 16 juillet 1942, enfin le 16 juillet 1942, la rafle du Veldiv, et votre départ aux États-Unis dans les années qui suivent, 5 ans après, qui sont quand même des moments cruciaux dans votre vie, mais dans votre écriture aussi. Enfin, pour votre écriture au moins.
J'ai écrit 13 romans. Certains en anglais, certains en français. Le matériau de ces romans se situe, enfin le matériau c'est 1942-1958. C'est-à-dire si c'est passé en France pendant la guerre, etc., où j'ai quitté la France en 1947, et ma grande confrontation avec ce grand monstre qu'est l'Amérique. Voilà les deux sujets, les deux obsessions de mon travail. La guerre, l'occupation, la déportation, la ferme, tatata. Mon départ en Amérique et l'Amérique, la découverte de l'Amérique.
Et la Shoah, parce que Louis Castel parle de vous comme un auteur à trous.
Oui, parce qu'on a tous, je crois, même ceux qui écrivent, des trous de mémoire. J'ai des trous dans ma vie, mais aussi des absences. J'ai en moi des tas d'absences et il faut les remplir. Alors j'invente ou je mens. Il est possible que je mens. J'ai écrit un essai qui s'intitule « Federman sur Federman, mentir ou mourir ». Si on ne ment pas, on meurt.
Oui, je voudrais intervenir là-dessus, bien sûr, sur cette notion du trou. J'affectionne un certain nombre d'auteurs, dont Raymond Federman n'est pas le moindre, qui nous permettent plusieurs choses par rapport à ce trou. D'abord comprendre, il troue ce qu'on appelle le réel, en justement mettant en parallèle le fictif et le réel. Parce que c'est quoi le réel? Est-ce que c'est ce qu'on nous fourgue dès l'enfance dans tous les conditionnements dont il nous faudra des années pour nous déprendre et la plupart d'entre nous n'y arriverons pas? Il met en question cette notion de réel. Et le fictif est au moins aussi important, sinon plus réel. Donc, ces auteurs qui trouvent le réel et qui nous permettent de prendre conscience de cela. Et qui également, le trou, c'est également quelque chose qui est sans doute indicible en nous et d'où nous venons et d'où nous parlons. Là, on rejoint Valère Novarina qui n'arrête pas de dire « nous sommes troués par la parole ». Et cette parole et ce trou, comment en être conscient, pénétré, traversé? Raymond Federman est de ce côté-là.
Mais comment écrire tout cela et mourir en même temps? Voilà la grande question. Alors là, il faut que je reparte en arrière. En 1957, je vois En attendant Godot pour la première fois à New York, en anglais. Et quand Pazzo et Locky entrent en scène, Locky entre en scène avec cette corde au cou, Pazzo est encore là, off stage, et il lui donne avec son fouet, pig on pig, une image atroce, terrible. Et pourtant, tout le monde a ri. Et je me suis dit ce jour-là, si un jour j'écris, c'est comme ça que je veux écrire. Le plus horrible est en réussir à vous faire rire en même temps. J'appelle ça le fou rire. Et cette image m'est restée, et Beckett est bien sûr est là présent. J'ai fait la première thèse de doctorat sur Beckett en 1963. J'ai écrit 4 livres sur Beckett, je suis venu très copain avec lui. Et bon, on n'écrit pas comme Beckett, c'est pour moi le deuxième plus grand écrivain du XXe siècle.
Qui est le premier?
Marcel Proust. Ce que Beckett m'a appris, et c'est un peu, ça se rapporte à ce que Louis disait, c'est qu'il m'a appris à me débarrasser de ce que j'appelle l'imposture du réalisme et du naturalisme. Et je traverse ça, et donc je n'écris pas c'est pas du réalisme.
Dans le spectacle, les textes, parce que vous écrivez et en anglais et en français.
Je me traduis d'une langue à l'autre même.
Dans le spectacle, dans quelle langue est le spectacle?
En français.
En français.
Et Quelques mots en anglais.
Il y a de l'anglais là.
C'est pas aussi simple que ça, non. Moi je crois. Parce que je pense que quand Raymond Federman aussi, il a sa propre langue comme tous les grands auteurs. Et quand il écrit, par exemple, en français, il y a le souvenir de la structure de l'anglais, de l'américain. Et il a des strates. Donc tout ça est mis en écho, en résonance. À propos des langues présentes, je suis frappé par une chose dans les répétitions que je n'avais pas vue à la lecture. C'est, j'en ai parlé avec Pascal Casanova, qui est la productrice sur France Culture de l'émission que j'avais entendue, me disait, oui, il a des mots comme ça de 1930, c'est-à-dire Raymond Federman, il est né à Montrouge et il a vécu dans la banlieue populaire. Et c'est fou comme j'entends beaucoup plus des expressions que je connais, qu'on utilise moins aujourd'hui, qu'on entendait dans les chansons populaires de l'époque. Par exemple, je m'en fous pas mal. Vous entendez que c'est un titre de, c'est une strate de la langue de Raymond. Et il tricote les plans du langage, il tricote les plans de réalité, de temps. C'est, apparemment, comme ça, très simple, et c'est très tricoté. Et, à propos du très simple, quand même, moi, dans ce que j'aime beaucoup, c'est chez Raymond Federman, et il est un des rares à faire ça, c'est qu'il n'hésite pas à appeler un chat, ou une chatte, et surtout à utiliser le langage popu, mais pas comme un maniérisme, comme une strate au moins aussi importante dans sa langue que le reste. Quand il faut dire la chose, on l'a dit. On prend pas des détours pour expliquer que machin truc. Ben non, un cul, c'est un cul.
Oui, mais il faudrait quand même dire que je pars en Amérique en 47 et j'ai écrit mon premier roman en français, c'est Ameldorado, publié en 74. C'est-à-dire que pendant une longue période, j'étais vraiment dans la langue anglaise. J'écrivais en anglais. J'ai fait des textes en français à l'université, mais des textes académiques. Quand je me suis mis à écrire Amer Eldorado, je me suis replongé dans la langue de mon enfance. Et je l'ai retrouvée, et je l'ai aussi retrouvée un peu, faut que je l'admette, chez Céline. Céline a été très importante pour moi, pour me donner ce sens parlé de l'écriture. Très écrit, mais en même temps le sens parlé.
Alors, dans le spectacle Federman's, il y a trois textes qui sont le corps
du spectacle. Oui, en particulier Amer Eldorado.
Amer Eldorado.
Il y a de la voix dans le cabinet de débarras.
Voilà.
Et il y a aussi de Quito Double.
Quito Double.
Qui a fait le montage? C'est vous ou c'est vous?
C'est lui.
Vous lui avez laissé toute liberté.
Je lui ai donné toute mon offre, comme ça, gratuitement.
et vous êtes, en revanche, pour la première fois sur scène?
En France, oui.
En France.
Non, en Amérique, quand j'étais étudiant, j'ai fait quelques petits rôles. Mon grand rôle, c'était dans On ne badine pas avec l'amour de Musset. J'étais maître patelin. J'ai fait la farce du Cuvier. C'était à l'université à New York. Mais ça, c'est la première fois que je suis non seulement acteur sur la scène, on me paye même comme acteur.
quelle place vous lui avez accordée sur scène?
Et il est là. En réel, en virtuel, et j'espère qu'on ne saura jamais tout à fait vraiment si c'est le Federman virtuel ou si c'est le Federman réel. C'est-à-dire qu'il est un des... ça s'appelle Federmans, hein, le spectacle avec ce S, c'est-à-dire quelque chose de Federman, des Federman. C'est un peu, comment dire... Il y a une ribambelle d'instances de parole en chacun de nous. Il y en a beaucoup, chez Federman en particulier. Donc, Raymond Federman intervenant dans son propre univers est là comme virtualité, comme une de ces instances. Il est là pour mettre en perspective, en question, ces foutues notions de personnages, de réalité, de machin, dans lesquelles on vit encore enfermé, et on a bien besoin quand même qu'aujourd'hui s'inventent des formes d'écriture où on ne nous bassine plus avec les mêmes trucs de réalisme et de machin. Faut éclater un peu tout ça. C'est le 21e siècle. Raymond avait de l'avance.
Le titre demande même une explication. Federman, apostrophe, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose. C'est quoi? L'œuvre de Federman, la vie de Federman, les livres de Federman, on ne sait pas. C'est au public d'ajouter, dans ce trou qu'il reste là derrière, en anglais, vous savez que c'est ce qu'on appelle le cas possessif, parce qu'il faut un mot, et le mot n'est pas là.
C'est mon Federman.
Voilà.
J'avais envie d'ajouter quelque chose à propos de la question sur la langue dans laquelle c'est écrit. Il y a une troisième langue, c'est le jazz quand même qui est très présent.
Voilà, très juste, merci. Oui, la rythmique, etc., qui est une de ses strates, bien entendu. Voilà, c'est ça le travail en équipe.
Oui, pendant mes premières années en Amérique, j'ai fait du jazz et qui est en moi le rythme de mon écriture, c'est vraiment du jazz.
Et je veux ajouter une chose, effectivement, au départ, je me suis dit, parce que Raymond a même dit des poèmes avec des groupes de jazz, enfin, je me suis dit, il va falloir qu'on écrive, qu'on ait un musicien qui écrive de la musique. Et puis peu à peu, je me suis dit non, elle est la rythmique, elle est dans la musique, elle est dans l'écriture de Federman. Et ça fait, on a une espèce de machine là, à rythmer les acteurs, les écritures ensemble.
Ça s'appelle donc Federman. S'y a-t-il des questions dans la salle? Sur les bancs, personne. Merci beaucoup.
Excusez-moi.
Oui.
Non pas pour prendre la parole, mais il y a le 3
si vous prenez la parole,
oui, 3 jours de lecture autour.
Mais ça, on va en parler juste après. D'accord. On va parler du deuxième spectacle avec Jean-François Perret. Et on parlera ensuite du programme des rencontres d'été de la Chartreuse, si vous le voulez bien. Donc je vais demander, merci, je vais demander à Jean-François Perret, à Luc Stils, ainsi qu'à Alexandros Markeas, je crois qu'il est annoncé, de venir à la tribune. Jean-François Perret, que vous aviez voulu faire le portrait d'une femme, cerveau compris. Ça m'a un peu interpellé. Ça veut dire quoi?
Ben non, c'est vrai. J'ai dit ça, vraiment?
Je l'ai lu.
Oui, bon, d'accord. Non, d'abord, je crois que, oui, cerveau compris, ça paraît la moindre des choses. C'est peut-être ce que j'enlèverais aujourd'hui, c'est l'idée de portrait qui peut prêter à confusion. Puisque c'est plutôt un parcours dans non seulement la vie de Sophie Kowalewski, qui est donc une femme qui est mathématicienne, qui est née en 1850, qui est morte en 1891, donc la génération des nihilistes, et qui est connue en France, et c'est ça que je suis parti, plus comme romancière que comme mathématicienne. Comme mathématicienne, elle a mis en équation des mouvements de la toupie. Donc, il y a beaucoup de toupies dans le spectacle, mais c'est pas les bonnes. Et comme romancière, on a traduit l'année dernière son roman Une nihiliste aux éditions Phébus, et c'est comme ça que je l'ai rencontré. Et c'est vrai que cerveau compris, ça veut dire que le cerveau de Sophie K m'intéresse. D'abord parce qu'en général, le cerveau m'intéresse depuis quelques années dans les spectacles qu'on fait, c'est-à-dire, puis même au fond d'avoir un cerveau, ça me surprend toujours quand je regarde mon chat. Et c'est très fragile, c'est peut-être une des plus belles choses de la nature. Et donc au fond, depuis 5-6 ans, les spectacles sont des recherches sur des fonctionnements qu'on peut peut-être proposer aux spectateurs de leur propre cerveau. Ça ne veut pas dire du tout des idées, hein, précisément pas. C'est pas intellectuel ce que je dis. Et donc, le cerveau amphibie de Sophie, c'est assez rare, des esprits qui sont à la fois scientifiques et artistiques. Et cette double postulation chez elle, elle voulait vraiment ça. Alors que sans doute, elle était peut-être plus douée pour les maths. Elle dit à un moment, peut-être, d'ailleurs, si je m'étais livré exclusivement aux mathématiques, j'aurais été un peu plus loin. Mais enfin, de toute façon, elle est morte très jeune. Et que cette dualité ou cette dichotomie fait problème dans notre culture parce qu'on a définitivement séparé l'esprit de géométrie et l'esprit de finesse, mais aussi par rapport à l'exercice de la science ou des sciences aujourd'hui où l'extrême spécialisation interdirait sans doute d'exister des cas comme Sophie. Donc cerveau compris, c'est ça. Et d'ailleurs, son cerveau, je ne suis pas le premier à m'y intéresser, puisqu'à son autopsie, on l'a gardé, photographié, étudié, etc. Donc ce n'est pas antiféministe, c'est-à-dire que toutes les femmes m'intéressent, cerveau compris.
Il faut raconter un petit peu plus, je pense, la vie de cette femme, mais je vais vous laisser faire, parce qu'elle a une vie extraordinaire. Elle rencontre Dostoïevski, elle rencontre Poincaré, elle écrit des romans, elle analyse donc les mouvements de la toupie. elle est l'une des premières à avoir une chaire.
La première.
La première à avoir une chaire de mathématiques.
Oui, il y a un fabuleux destin de Sophie K, mais c'est pas tout à fait comme ça qu'on traite la question. C'est vrai que c'est une vie extrêmement brève mais riche, puisque non, elle appartient à cette génération de jeunes filles aristocratiques, aristocrates russes, qui est marquée par le choc de l'abolition du servage en 61 et qui va vers le peuple. C'est surtout sa sœur aînée, d'ailleurs, Aniuta, qui fait le déplacement, qui subit cette épidémie dont elle parle d'ailleurs. Toutes les jeunes filles russes quittent la maison paternelle pour essayer de faire des études, pour apporter la lumière ou les lumières après au peuple. Et sa sœur aînée, effectivement, décide d'écrire, écrit quelques nouvelles qu'elle envoie à Dostoïevski, qui les publie aux grandes dames du père de ces deux jeunes filles, qui dit quand on commence à... Parce qu'elle a touché des roubles pour ça, pour son écriture. Quand on commence à vendre sa prose, on finit par vendre son corps. Donc elle rencontre Dostoïevski, c'est d'ailleurs... Dostoïevski tombe amoureux de la sœur aînée, et la sœur cadette, donc Sophie, tombe amoureuse de Dostoïevski, et finalement il en épouse une autre. Et elle fait le trajet, au fond, que beaucoup de ces jeunes femmes font, c'est-à-dire le mariage blanc pour pouvoir quitter la famille, et elle part, on s'est aperçu qu'elle était assez douée en maths, elle part faire des études en Allemagne essentiellement. Elle rencontre Weierstrass, elle n'a pas le droit non plus de faire des études, d'aller à l'université, donc Weierstrass, qui est sans doute le plus grand mathématicien allemand du 19e siècle, reconnaît son talent, lui fait soutenir in absentia une thèse à Göttingen, et même docteur, elle peut pas exercer ça, les mathématiques, donc elle retourne en Russie. C'est un roman là, à ce moment-là. Ils essaient de faire fortune, le marié blanc et elle. Ils se ruinent évidemment. Le père meurt, le mariage devient moins blanc. Une petite fille naît. Après, ils se ruinent. Donc le Kovalevski se suicide. Enfin, c'est un roman vraiment de Dostoïevski. Et puis elle repart en Europe et je raconte la fin. Elle, grâce à un mathématicien suédois, elle pourra obtenir la première chaire, effectivement, qu'une femme obtient de mathématiques à Stockholm. Bon, il faudra attendre 1908, elle l'a en 1888, je crois, 1908, pour qu'une deuxième femme obtienne une chaire d'université, c'est Marie Curie. Alors, c'est pas ça qui nous a spécialement intéressés, mais enfin, c'est vrai qu'on pourrait faire un bon téléfilm avec un mauvais spectacle, oui.
Alors justement, quels matériaux avez-vous utilisé pour raconter non pas cette vie-là, mais pour vous brancher sur le cerveau amphibie de Sophie K?
Là, c'est toujours un peu une conversation à plusieurs, hein, puisque on part pas d'un texte pré-écrit. On parlait des expériences d'écriture tout à l'heure. C'est pas écrit. On n'a pas pris un texte écrit pour le théâtre, mais on a essayé de fabriquer un texte par le théâtre. Et donc, ce texte est composé de beaucoup de matériaux, parce qu'au fond, quand je commence à travailler, il y avait le problème Sophie K, que j'ai rencontré comme on rencontre quelqu'un, c'est-à-dire on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas si c'est une bonne idée, je le saurai bientôt, je crois. On commence à lire beaucoup de choses. C'est vrai que, ayant beaucoup vécu avec des neurobiologistes ces derniers temps, mais déjà ayant rencontré sur mon chemin un mathématicien, Alan Turing, c'est une espèce, en tant que sinistré des mathématiques, comme beaucoup de littéraires, il y a toujours un vague dépit face à cette discipline, une hargne, une haine, enfin bref, on a des problèmes compliqués avec les maths quand on n'est pas mathématicien, mais j'ai l'impression d'ailleurs que les mathématiciens aussi ont des problèmes compliqués avec les maths. Enfin, ça fait des personnages compliqués. On a commencé à lire des choses, et ça a composé ce qu'on appelle les premières partitions, une partition zéro, où rentrent aussi bien des textes contemporains sur les mathématiques. On a rencontré des mathématiciens. Avec Luc, on a comme ça nourri une conversation qui ne se réduit pas effectivement à l'anecdote biographique de Sophie K. Et on s'est aperçu aussi que ces mathématiques-là étaient quasiment hors d'atteinte, et je ne pense pas que le théâtre puisse vraiment en rendre compte, ni que ce soit sa tâche. Mais ce qui nous a quand même le plus intéressé, c'est le discours, enfin c'est la question de l'imagination, quoi. Il y a vraiment... Et ça, moi, ça m'est venu d'un article de mon écrivain préféré, mais qui ne peut pas être à cette table parce qu'il est mort, comme tous les gens que je traite souvent, sauf mes amis, bien sûr. C'est-à-dire Mouzil. Il y a un texte formidable de lui sur l'homme mathématique, écrit en 1913, quand il dit qu'au fond, les mathématiques sont les dernières témérités somptuaires de la raison pure. Je trouve ça formidable. Et en même temps que le mathématicien, au fond, comme le poète... est quelqu'un qui côtoie de plus près le fantastique. Et là, il y a quelque chose de fantastique dans ces idéalités-là, et que je regarde de loin, mais que j'essaie de peut-être, en envoyant trois comédiennes à ma place, on essaie de s'approcher de ça, quoi. Mais donc, ça fait une espèce d'univers de discours assez amorphe, qui n'a pas encore de forme. Et le travail théâtral, après, avec les comédiens, avec Alexandros, c'est d'en faire une forme, quoi. Mais j'ai trop parlé là.
Non, mais je vais poser la question à Luc Stich pour savoir comment vous raconteriez cette collaboration et comment votre discours sur l'intelligence artificielle, l'informatique, etc., trouve son débouché dans le théâtre de Jean-François Perret.
Alors, je pense pas que l'intelligence artificielle est très très importante dans cette pièce parce que c'était plus dans Turing. Mais bon, là, je suis plutôt là comme scientifique et j'ai essayé d'aider Jean-François pour appliquer cette méthode de théâtre. Comment est-ce que le théâtre peut approcher ou se trouver en fait comment le cerveau fonctionne d'une mathématicienne, pas vraiment le cerveau, mais la psychologie, l'imagination, tout ça. Et on a travaillé pendant des mois, en fait, dans des circonstances vraiment idéales à la Chartreuse, pour creuser et pour dans une aventure incroyable. Et bon, quand on voit le résultat maintenant, ça donne une idée, mais je pense que c'est surtout la méthode qui est vraiment unique et qui donne une façon de rapprocher un sujet qu'on peut pas typiquement aborder facilement. Ça veut dire la mathématique et des choses comme ça. Et je pense pour les sciences aussi, c'est énormément enrichissant cette approche. Et j'espère que bon, il y aura plus de ce genre de choses. Ça veut dire c'est pas biographique, c'est pas un travail de téléfilm, c'est plutôt un travail très profond dans l'imagination et la psychologie. Autour des pensées scientifiques et des pensées mathématiques.
J'ai envie de poser une toute petite question. Est-ce que vraiment le cerveau d'un mathématicien est très différent du cerveau d'un écrivain?
Ben là, c'est...
Du mien.
C'est une des questions qu'on va se poser justement dans les rencontres qu'on va avoir pendant le spectacle. Parce qu'on a invité deux mathématiciennes, Michel Audin et Jacqueline Netras. Et bon, il y a une grande discussion autour avec Stanislas Dahan, par exemple, qui a écrit un livre là-dessus, et des débats si, en fait, si on est né mathématicien, est-ce qu'on est né auteur, ou est-ce que c'est une question de passion qui alimente le cerveau des pensées de temps. Et là, je pense avec Sonia Kovalevski, il y a la tension entre l'attraction de la littérature, le théâtre aussi, parce qu'elle a écrit deux pièces de théâtre, d'un côté, et la politique, parce que je pense la vie politique est très importante pour elle, et d'un autre côté, les sciences qui sont comme un trou noir. On entre dedans, on est... comme ça, et ça joue chez elle cette tension tout le temps. Et en fait, il faut dépenser beaucoup de temps, il faut entrer dans un monde, et elle a échappé aussi beaucoup dans ce monde pour retrouver son équilibre.
Il y a quelque chose, donc, un peu de Sophie K chez vous, Jean-François Perret, parce que depuis 10 ans, vous ne cessez d'être comme ça attiré, ou de vouloir attirer sur le théâtre, et des scientifiques, puisque vous avez travaillé avec Jean-Didier Vincent, avec Alain Prochian, et maintenant avec Luc Steele, même si vous avez déjà travaillé ensemble, je crois, de les amener sur la scène et amener le discours scientifique, ou l'analyse scientifique, dans le monde de la littérature théâtrale.
Oui, on peut dire ça, c'est vrai que ça finit par être vrai. Mais je pense que c'était pas tout à fait délibéré, parce que c'est pas un programme académique, c'est aussi là une question de rencontre, de projet qui s'élabore, il faut faire vite, il faut donner un titre à un spectacle, et c'est comme ça que c'est arrivé, parce que j'ai Ariel Goldenberg, qui est toujours mon producteur, là, qui était à Bobigny à l'époque, qui voulait me reprendre avec lui, et donc, je lui ai proposé un traité en 17 exemplaires pour être sûr de rester un peu. Il n'en a fait que 5 et ça s'appelait Traité des passions. Donc, mais j'ai dit ça comme ça, enfin pas, un peu plus compliqué, mais disons que le mot m'a emporté. C'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Didier Vincent qui a écrit La biologie des passions. Là, je me suis aperçu effectivement que ça confirmait quand même, là c'est plus profond, une autre phrase de Mouzil dans le même article, quand il dit qu'au fond, c'est l'audace de la pensée, le risque de la pensée et ses dangers sont du côté des scientifiques. J'ai essayé de travailler assez longtemps aussi avec des philosophes ou des représentants des sciences humaines, qui sont pas là ce matin, ils s'en foutent complètement, je veux dire. Ce qui m'a, enfin, ça les intéresse pas. S'ils sont vieux, ils en sont restés à Villars. S'ils sont jeunes, ils regardent la télé. Donc on les voit, on les attire pas dans les théâtres, même les écrivains, c'est dur, c'est pour ça qu'il faut saluer la présence de Federman. Bon, alors que j'ai constaté, m'intéressant comme ça un petit peu à l'imagination scientifique effectivement, que quand on interpelle ou qu'on s'adresse à un grand scientifique qui est un peu inventif aussi et créateur, il y a toujours des réponses positives. Donc il est très facile d'attirer un scientifique dans un théâtre, il n'est pas dépaysé. Et ça l'intéresse. Donc je vis là-dessus un petit peu. C'est quasiment d'ailleurs un fonds de commerce à force. Ça, c'est involontaire, mais c'est pas du tout délibéré. C'est parce que ce commerce est riche et qu'on arrive à fabriquer des choses ensemble. Je veux dire, vous parliez d'Alain Prochian dans le livre qu'on vient de faire ensemble. Il explique que ça fait partie de son travail scientifique de venir travailler dans un théâtre. Bon, et c'est effectivement là, on essaiera de rendre compte un peu de cette démarche dans nos 4 journées d'improvisation, où il y aura quand même des philosophes aussi, puisqu'il y a Sloterdijk qui viendra, et un anthropologue américain, Paul Rabinoff, mais aussi d'une romancière, puisqu'Alice Bayot sera là, qui s'intéresse beaucoup aux sciences aussi. Donc je pense que, de toute façon, il n'y a qu'à ouvrir le journal tous les jours, l'actualité scientifique ne nous laisse pas de répit, donc c'est en tant que lecteur de journal que j'essaie de réagir à ça aussi, au théâtre, quoi.
Est-ce qu'il a été facile de faire venir un musicien, en l'occurrence Alexandros Markeas,
au théâtre? De le faire repartir maintenant.
quelle musique avez-vous imaginée pour le cerveau de Sophie K, pour baigner le cerveau de Sophie K?
Bah, écoutez, c'est la 4e collaboration avec Jean-François Perret, et à chaque fois j'essaye d'agir sur une musique qui se conçoit à plusieurs niveaux. Un premier, c'est vraiment interpréter l'apport des scientifiques, c'est-à-dire dans un premier spectacle, la génisse et la pythagoricien, j'ai essayé de chercher de mon côté une définition biologique de ce qui s'est composé de la musique. Après, de réfléchir sur ce qui pourrait être la sélection naturelle dans le monde du musical, et le monde du sonore. Et là, je pars de ça. C'est quoi les liens des mathématiques avec la musique et avec le musicien? Moi, je travaille sur le pourquoi et le comment de la musique et le fait de savoir que la musique, ce n'est que des hauteurs, fréquences, durées, intensités qui sont quantifiables et qui s'inscrivent dans le temps. Ça permet de composer, de la concevoir de cette manière-là, de la ré-synthétiser à partir de ce que le texte nous inspire. Et après, il y a différents niveaux d'action. Par exemple, on parle de la toupie dans les spectacles. C'est quoi, comment un musicien réagit quand on lui dit une toupie, c'est-à-dire une projection d'énergie, l'idée de la rotation et après l'énergie qui petit à petit s'épère. Un autre niveau, c'est quoi les sons d'un plateau de théâtre, comment les rythmes des comédiens, comment les petits bruits, les mouvements, les espaces sonores, les résonances, comment tout ça peut devenir matière qui dialogue avec les comédiens, qui est réinjecté dans le monde des idées, qui voyage, comment je peux contribuer à cette rêverie qui passe du destin d'une femme au monde des mathématiques, aux romans, et puis finalement aux êtres vivants qui m'entourent, qui sont les comédiens.
Donc c'est des...
Préciser qu'Alexandros est sur le plateau là.
Oui, quand il parle de plusieurs niveaux, c'est qu'il y a une musique enregistrée.
Et là, cette fois-ci, non, il intervient sur ses machines directement, mais il joue aussi sur un piano qui est un peu trafiqué. Mais c'est la première fois, c'est effectivement la quatrième collaboration, c'est la première fois qu'il est physiquement présent en tant que pianiste aussi, parce que Alexandros a ce côté amphibie d'être à la fois un compositeur, mais un très, très bon pianiste, je crois. Et donc là, il y a aussi ce j'ajouterai une chose pour être bavard, mais c'est important pour moi, là, c'est que dans le travail d'élaboration du spectacle, il est presque là tout le temps en répétition. C'est-à-dire qu'il compose aussi comme on fait, c'est-à-dire à partir de ses propositions, moi je réagis, et inversement. Et aussi, il y a l'autre caractère amphibie, c'est le rapport entre, au fond, la musique qui vient d'un instrument acoustique et la médiation, empêchement, l'équipement technologique, enfin... Qu'un artiste soit confronté à cette question de la machine m'intéressait pas mal. Ouais.
Mais est-ce que tous ces matériaux sont continuellement mouvants et évoluent au cours des représentations ou à un moment ils sont fixés?
Non, c'est fait. Une fois que ça a pris ou pas pris, d'ailleurs, enfin, il faut choisir, c'est tous les soirs pour le moment la même représentation. Peut-être que du point de vue de la musique, il peut y avoir une part plus grande d'improvisation.
C'est vrai que moi j'ai part. Tout au long des répétitions d'une attitude d'improvisation totale à un état d'improvisation préméditée pour arriver à quelque chose d'assez figé tout en essayant de garder je suis vraiment réactif par rapport aux comédiens et on a dans notre équipe Graham Valentine par exemple qui est quelqu'un qui a une présence sur les plateaux qui m'amène à chaque fois m'adapter à une situation des fois insoupçonnée. Mais en fait, à la fin, on fiche les choses et on contrôle tout.
Les fiches, oui. C'est donc le cas de Sophie K, la chartreuse, à partir du 9. Alors, François de Bangarden, on va finir cette conférence en donnant les autres rendez-vous des rencontres d'été de la chartreuse. Donc, aussi bien avec Federman qu'avec le cas de Sophie K, il y a des lectures, des rencontres, avec en l'occurrence pour vous des rencontres avec des scientifiques, c'est ça?
Alors, je précise avant de leur donner la parole à François, ces quatre journées qu'on a prévues du 18 au 21, c'est effectivement des rencontres, mais c'est des rencontres surtout entre effectivement des scientifiques ou des philosophes et un écrivain. Avec les comédiens aussi, c'est pas simplement une discussion. C'est avec le public, c'est pas un débat. C'est plutôt voir des séances de travail, comment si à partir d'un texte de Sloterdijk ou d'une mathématicienne, un comédien peut improviser. Donc l'équipe du spectacle précédent, des variations Darwin, sera présente pour ces séances qui sont pas des séances de débat, voilà, mais plutôt de travail théâtral. Où se frictionne comme ça l'univers de la pensée en mouvement et du théâtre du corps du comédien.
Oui, alors finalement ces rencontres d'été de la chartreuse se relient de manière assez emblématique avec ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que la rencontre du texte et de l'acteur, la rencontre de la musique et du théâtre, la rencontre d'un domaine de pensée qui pourrait apparaître aux antipodes de la création artistique et la science, etc. C'est vraiment emblématique de ce qu'on fait, donc je donnerai quelques exemples simplement. On vient de parler des rencontres autour du spectacle de Sophie K,
qui prennent aussi la forme d'un travail avec l'école d'acteurs de l'ERAC, l'école d'acteurs de Cannes. Donc là, on a une rencontre d'artistes en formation avec une équipe professionnelle, avec un texte. Les rencontres autour de Federman, puisqu'il y a des lectures de Federman et de avec ses amis et une rencontre avec le public. Notre vie quotidienne tournée, comme je le disais tout à l'heure, autour de ce laboratoire d'écriture du spectacle, nous donne l'occasion de montrer, de faire écouter des auteurs. Donc il y a des lectures d'auteurs à plusieurs reprises, un programme assez foisonnant. Enfin, je pioche comme ça un peu
là-dedans. Tous les détails sont dans
ce petit livre blanc et rouge. Donc rencontre avec des auteurs. Il y a des rencontres professionnelles aussi qui font partie aussi de notre travail que le ministère de la Culture nous demande de faire. Donc nous avons les contemporaines du théâtre qui permettent de faire se rencontrer des auteurs, des metteurs en scène avec des producteurs ou des responsables de salle. Les contemporaines de la marionnette qui procèdent de la même manière par rapport à une forme théâtrale particulière qui a peu l'habitude de se confronter aux auteurs. Et donc il y a tout un travail qui est fait, y compris d'ailleurs avec l'association Théma, autour de cette problématique de la marionnette et du texte. Des rencontres d'autres natures aussi, plus de politique culturelle, puisque nous accueillons des journées de l'ANRAT, sur des thématiques de formation. D'ailleurs, dans les deux cas, j'allais citer aussi les rencontres de l'INJEP, l'Institut National de la Jeunesse et de l'Éducation Populaire, qui organise une journée consacrée à la problématique nouvelle de l'enseignement artistique dans la perspective de la décentralisation, qui est vraiment une problématique de politique culturelle. Et puis, il y a d'autres rencontres aussi d'une autre nature, qui ont permis à la Chartreuse de renouer avec quelque chose qu'elle avait un peu perdu ces dernières années, mais finalement la perte n'a pas été longue, ça a été peut-être simplement une interruption. C'est le rapprochement avec les arts visuels, et là la rencontre que le public pourra faire avec l'œuvre d'Absalon, puisqu'il y a une exposition de cet artiste assez incroyable qui est mort en 93, mais on a l'impression qu'il est d'une modernité ou peut-être même d'une longueur d'avance sur beaucoup de plasticiens contemporains, et qui rencontre totalement la Chartreuse, puisqu'il a c'est un artiste qui a fabriqué des cellules, ce qu'il appelle des cellules, où son travail de plasticien, son travail de coloriste, vous verrez que c'est une couleur bien particulière. Vous me demandiez quelle était la couleur d'Hamlet, la couleur de la solitude et la couleur de la liberté pour Absalon, c'est le blanc, qui se confronte vraiment de manière assez extraordinaire avec les pierres de la Chartreuse, et qui donne tout leur sens, je crois, à cette phrase que Michel Foucault avait écrite à propos d'une théorie qu'il faisait des hétérotopies. Donc là encore une rencontre entre la pensée, l'espace, etc., où il parle de la rencontre des pieux descendants du temps avec les habitants acharnés de l'espace. Donc quelque part, le programme de la Chartreuse, c'est cela.
Merci beaucoup. Donc rendez-vous avec le 4 Sophica et Federman à partir du 9 à la Chartreuse, et avec donc les expositions Absalon et puis des expositions des œuvres du FRAC, Languedoc et PACA. Merci beaucoup et rendez-vous à demain pour une nouvelle conférence avec, si ma mémoire est bonne, Thomas Ostermayer et je ne sais plus qui. Et Olivier Py, voilà, merci. À demain.